20e. Samedi dernier, dans son émission Réplique, Alain Finkielkraut avait invité l'écrivain et militant d'extrême droite, Renaud Camus. Autant dire que ce sont par centaines que les messages de protestation sont parvenus à vous, cher médiateur. Pour y répondre, Alain Finkielkraut nous a rejoint.
Alain Finkielkraut, bonjour.
Bonjour.
Alors, ne tournons pas autour du pot. Certains auditeurs doivent être choqués, voire stupéfaits et même indignés que pour parler de la question migratoire, j'invite Renaud Camus. C'est par ces mots que vous avez introduit votre émission. Vous saviez que vous alliez provoquer un tonnerre de protestations en offrant une tribune à un personnage plutôt sulfureux, condamné pour des propos racistes, comme le souligne Fabienne, une auditrice, et adepte d'une France blanche, chrétienne et refermée sur elle-même, comme le rappelle Germain. Alors, que cherchez-vous dans cette provocation ?
J'ai depuis longtemps passé l'âge de la provocation. Mon adolescence est derrière moi. Si j'ai invité Renaud Camus à réplique, ce n'est pas pour choquer les auditeurs. J'ai pris le risque de les choquer pour mettre fin à une anomalie. Renaud Camus, qu'on ne voit et n'entend nulle part, a forgé une expression qu'on entend tout le temps et partout, le grand remplacement. Certaines personnalités, comme Éric Zemmour, Yvan Rioufol, la revendiquent explicitement, d'autres la critiquent, mais toujours en la nommant.
Alors, citons,
J'ai cité Régis Debray. Et puis, certains, en quelque sorte, en font un drapeau. J'ai cité Édouard Louis, le romancier, l'auteur d'un livre retentissant, Eddie Bellegueule, qui appelle au grand remplacement de la vieille France. J'aurais pu citer aussi Léonora Miano, une romancière contre la présence de laquelle aucun auditeur ne songerait à protester. Or, dit ceci, vous avez peur d'être minoritaire culturellement, n'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer, l'Europe va muter, cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour en voir l'aboutissement. Autrement dit, le thème du grand remplacement est obsédant. Il me semblait donc naturel, légitime, d'inviter l'auteur de l'expression, non pas du tout, comme vous l'avez dit, pour lui offrir une tribune, mais pour le mettre face à un adversaire résolu, Hervé Le Bras, qui lui-même, dans ses deux derniers livres, cite ce syntagme obsédant,
oui,
le grand remplacement, pour le critiquer. J'espérais qu'à l'issue d'un débat sans concession, une réponse puisse être apportée à la question « qu'est-ce qui se passe ?» La peur de devenir étranger chez soi qui entre notre époque, comme le dit ce matin encore Mathieu Bock-Côté dans un éditorial du Figaro, est-elle légitime ou totalement infondée ?
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, on peut comprendre en effet votre... Enfin, la légitimité de faire ce débat, mais il n'empêche que beaucoup d'auditeurs vous reprochent quand même de faire le lit du racisme et de l'islamophobie, notamment pour Thomas, Alain Finkielkraut est devenu le porte-parole de la folie paranoïaque islamophobe. Et pour Marvin, en 1930, les juifs étaient tristement pointés du doigt. En 2017, sous couvert de la liberté d'expression, vous pointez du doigt les musulmans.
Alors,
qu'est-ce que vous en dites ?
Je dirais que cette analogie est pour le moins fantaisiste. Je vous citerai Charb, le dessinateur assassiné de Charlie Hebdo, lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. En 1931, existait-il un terrorisme international qui se réclamait du judaïsme orthodoxe ? Des djihadistes juifs menaçaient-ils d'instaurer l'équivalent de la charia en Libye, en Tunisie, en Syrie, en Irak ? Un rabbin Ben Laden avait-il envoyé un biplan s'écraser contre l'Empire State Building ? Et de même, aucun juif des années 30 ne réclamait l'adaptation du droit, de l'enseignement et des usages nationaux à sa communauté. Tous les musulmans ne le font pas, bien sûr, mais certains musulmans le font. Et cette analogie a ceci de particulièrement contestable qu'elle fait l'impasse sur le nouvel antisémitisme. Dans un article récent de l'Express, Anne Rosenscher le rappelait, 66 000 des 350 000 juifs d'Île-de-France ont été obligés de déménager en 10 ans. Et je rappelle, pour mémoire, la défenestration de Sarah Halimi à Belleville, dont d'ailleurs Guillaume Herner a parlé dans la matinale de France Culture.
Donc vous faites en tout cas bien la distinction, vous ne mettez pas tous les musulmans dans le même sac.
Mais bien entendu, jamais je ne l'ai fait. Et non seulement je fais cette distinction, mais en plus, je ne fais aucune concession à Renaud Camus. Je ne me rends coupable d'aucune connivence.
Parce qu'en effet, on vous reprochait une certaine connivence.
Voilà. Parce que pendant l'émission, j'ai reproché à Renaud Camus, et c'est moi qui l'ai fait, de retourner en faveur de sa thèse, l'analogie entre les heures les plus sombres de notre histoire et l'époque, puisqu'il parle d'occupation, il dénonce la collaboration, il appelle à la résistance, au risque de manquer la spécificité de ce qui nous arrive, et surtout de jeter de l'huile sur le feu, car les Français, pendant les 4 ans d'occupation, eh bien, ils avaient toutes les raisons de haïr l'occupant. L'hitlérisme provoquait la haine habitait les résistants, et l'objet de cette haine portait un uniforme. Avec ce mot d'occupation, on est conduit logiquement à haïr tous les Arabes, tous les Noirs que l'on croise dans la rue. Et
vous faites vraiment la distinction aussi.
Mais bien
là.
Sûr, je pense qu'il faut faire la distinction parce que faire cette analogie, c'est non seulement verser, c'est risquer de verser dans l'inhumain
et dans la haine,
réduire et même détruire les chances d'une réaction civilisée à ce qui nous arrive. Et c'était le propos que je voulais tenir pendant l'émission parce que Hervé Le Braz défendait sa propre thèse, mais les objections principales à Renaud Camus et moi qui les ai faites, et elles portaient notamment sur l'analogie avec l'occupation, ou même sur l'analogie avec la colonisation, quand il voulait en quelque sorte se réclamer de Frantz Fanon, parce que je disais, les damnés de la Terre, qu'est-ce que c'est d'autre, et la préface de Jean-Paul Sartre en témoigne, qu'une apologie de la violence.
Alors, en deux mots aussi, on vous a reproché de ne pas quand même réagir au fait que Renaud Camus mettait en cause les sciences, l'objectivité de la science, les chiffres.
Alors, en deux mots, très vite, c'était l'objet des interventions d'Hervé Le Braz. Il a réagi avec force, avec courtoisie, mais avec une grande vigueur pour défendre la science et les chiffres. Alors, si vous m'interrogez personnellement, je crois que la science est incontestable, mais un certain scientisme peut être problématisé parce qu'il peut conduire à répudier l'expérience et à la remplacer, voilà une forme de remplacement, par l'expertise. Et ce remplacement est dangereux, et je vous rappellerai que ces chiffres et statistiques à l'appui, que certains sociologues ont pu dire que le niveau montait à l'école. On sait ce qu'il en est. Voilà pourquoi j'ai cité, en l'attribuant par erreur à Nicolas Gomez d'Avila, la belle maxime du poète Winston Oden. Il arrive au mot du menteur de rougir. Les chiffres du statisticien, eux, n'ont jamais honte.
Voilà, alors je voudrais quand même conclure par un mot du médiateur en disant que beaucoup d'auditeurs réclamaient la censure de votre émission. Là, simplement, je dirais qu'en effet, je suis toujours étonné qu'on puisse, en démocratie, réclamer la censure, d'autant que là, toutes les opinions, enfin, il y avait deux opinions opposées qui ont existé, et quand même, bon, la liberté de la presse et la liberté d'expression restent la plus belle des choses, et notamment sur France Culture. Un petit mot rapide.
Un mot extrêmement rapide. Nous sommes entrés, comme le dit Hervé Le Braz, dans l'âge des migrations. Cela pose d'immenses et de très délicats problèmes. Et alors, de deux choses l'une, soit on pense que ces problèmes font débat, soit on estime que c'est le débat qui fait problème. France Culture s'honore en choisissant la première option. Si France Culture devait être contrainte à choisir la deuxième, ce serait une catastrophe pour la vie intellectuelle.
Merci Alain Finkielkraut.
Merci beaucoup à vous, Bruno.